Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le plan d'aide de l'État aux viticulteurs, une enveloppe de 130 millions d'euros pour l'arrachage des vignes. Interdire le voile aux mineurs dans l'espace public, c'est l'une des 17 propositions choc de la droite sénatoriale qui s'attaque à la montée de l'islamisme. Et l'OM déjà au pied du mur en Ligue des Champions ce soir face à Newcastle.
130 millions d'euros, chèque du gouvernement pour sauver la viticulture en France.
Un plan de sortie de crise pour ce secteur en grande difficulté, détaillé par Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, hier soir à Montpellier. Il prévoit l'arrachage définitif des vignes réclamées de longue date par la profession, Cassandre Brault.
Oui, l'objectif est de rééquilibrer l'offre en aidant les exploitations à arracher leurs vignes. Elles produisent encore trop de vin alors que la consommation est en baisse. Depuis plusieurs années, les vendanges sont également impactées par les effets du changement climatique. À cette enveloppe de 130 millions s'ajoutent 10 millions d'euros d'allègement de charges sociales. Enfin, pour permettre aux viticulteurs de souffler et d'étaler leurs dettes, le gouvernement prolonge dès 2026 des prêts garantis en partie par l'État. Des réponses satisfaisantes pour Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants de France.
Maintenant, il faut aller vite parce que l'urgence, c'est aussi de pouvoir mobiliser ces outils au-delà de l'annonce. Il nous faut aller très vite sur le prêt de consolidation bancaire pour qu'il soit mobilisable dès le 1er janvier. Il nous faut aller très vite sur le dispositif d'arrachage, de recalibrage du vignoble parce que c'est une nécessité qu'attendent les exploitants. Tout ça va dans le bon sens. C'est maintenant dans la mise en œuvre et dans la rapidité de cette mise en œuvre qu'on est en attente.
Enfin, la ministre de l'Agriculture demande à la Commission européenne d'activer sa réserve de crise et de débloquer des fonds pour venir en aide aux viticulteurs français.
L'agriculture, c'est l'une des 5 priorités absolues avec la sécurité ou encore l'énergie pour Sébastien Lecornu, soumise au vote spécifique non contraignant des parlementaires dès la semaine prochaine. Nouvelle méthode du Premier ministre qui entend surmonter les blocages sur le budget et trouver des compromis thème par thème. Les débats sur le budget qui se poursuivent ce mardi au Sénat avec la suspension de la réforme des retraites au programme des sénateurs.
Mieux former, mieux détecter, mieux prévenir. Le gouvernement a détaillé hier ses 53 mesures législatives pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Et c'est la journée internationale de lutte contre ce fléau aujourd'hui. Occasion pour la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, de co-signer avec Vincent Jeanbrun, ministre du Logement. Votre invité Apolline à 8h30 ce matin sur RMC et BFM TV, une circulaire destinée au préfet. Elvie Célestin Bougère a rappelé les principes d'accès aux hébergements d'urgence pour les victimes de violences conjugales et de leurs enfants. C'est une information RMC.
Oui, de l'identification des victimes à leur relogement. Le gouvernement demande au préfet d'appliquer un parcours identique dans chaque département en garantissant déjà un accès à un logement d'urgence, même si les services habituels sont indisponibles. Des hébergements non mixtes, avec de la vidéosurveillance et un digicode pour garantir leur sécurité. Concernant les relogements pérennes, la circulaire demande que les victimes de violences soient prioritaires pour accéder à des logements sociaux. C'est déjà prévu par la loi, mais cela requiert une décision de justice qui est souvent très longue à être prise. Contactée par RMC, une association de lutte contre les violences faites aux femmes souligne qu'il faudra des moyens supplémentaires pour appliquer ces mesures. De son côté, le gouvernement rappelle que les crédits pour l'hébergement d'urgence inscrits au budget 2026 sont en hausse de près de 110 millions d'euros. Encore faut-il que ce budget soit voté et promulgué d'ici le 31 décembre.
Un éternel débat à droite, la question du voile. Cette fois, ce sont les mineurs qui se retrouvent dans le viseur des Républicains et de leur patron, Laurent Wauquiez. Il a déposé hier une proposition de loi visant à interdire le port du voile pour les plus jeunes dans l'espace public, ciblant les parents qui l'imposent ou l'autorisent. Les sénateurs de droite, eux aussi, souhaitent l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 16 ans. C'est l'un des points de leur rapport pour lutter contre l'islamisme. Si ces propositions jugées inconstitutionnelles par certains juristes ont peu de chances d'aboutir, la question divise ces musulmans rencontrés par Martin Bourdin et Louis Salé.
Le foulard noir qui encadre son visage, Marius, 19 ans, l'a porté quelques mois quand elle était mineure avant de l'enlever, puis de l'ajuster à nouveau sur ses cheveux depuis qu'elle a 18 ans.
C'est mon choix et que mes parents ils m'ont pas dit « ouais, tu dois le mettre » ou quelque chose comme ça. Moi, je vote d'après ma famille. Ils nous ont jamais dit « ouais, il faut obliger de le porter ». Moi, j'ai ma sœur, elle est plus grande que moi, elle a jamais porté le voile. Mais c'est vraiment un choix.
Elle n'aurait donc pas compris que ses parents lui interdisent. D'ailleurs, pour beaucoup de parents comme Nadia, maman de 3 enfants, interférer dans cette décision n'est de toute façon pas envisageable.
C'est pas possible. On vient pas me dire à moi comment je dois faire avec ma fille. Pour moi, c'est juste une liberté. Une fillette de 5 ans,
En effet, elle n'est pas consciente de ses gestes, mais une enfant de 10-11 ans, elle a quand même sa tête et elle est quand même libre de décider.
Mais pour d'autres, comme Mohamed, papa de jumelles, interdire le voile aux mineurs est simplement une manière de les protéger.
Pourquoi à 15 ans, elle porte le voile? Pourquoi? C'est la connaissance de l'islam.
Et on va stigmatiser les enfants, regardez, dans les jeux, dans les aires des jeux, dans les machins. Et on va dire, bah voilà, c'est des musulmans.
Il déplore, comme d'autres musulmans rencontrés, un effet de mode porté notamment par les réseaux sociaux.
Et cette question de l'interdiction du voile pour les mineurs, j'attends vos réactions et vos témoignages au 32-16. Et notez qu'à 7h40, mon invité, ce sera le député RN Julien Odoul.
Encore un peu de patience pour plus de 2 millions de familles qui vont toucher la prime de Noël versée par l'État à compter du 16 décembre. Directement sur le compte en banque des personnes concernées. Il a retrouvé sa cellule, le détenu du quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, autorisé à quitter sa prison pour un entretien d'embauche dans la région lyonnaise, rentré finalement dans les clous en temps et en heure, Julie Brault, malgré un petit imprévu.
Oui, car c'est en train que ce détenu a réalisé un aller-retour entre la prison et la banlieue lyonnaise, train qui a eu une vingtaine de minutes de retard hier soir. C'est donc à 21h tout pile que l'homme de 52 ans est arrivé devant la prison de Vendin-le-Vieil, heure de retour maximale qui lui avait été accordée. Mais une fois devant les portes de l'établissement, personne ne lui ouvre. L'homme sonne d'abord à plusieurs reprises avant de faire des grands signes des mains devant le portail, toujours sans aucune réponse. Sa femme, restée initialement dans le taxi qui les avait récupérés un peu plus tôt à la gare, se précipite alors à ses côtés pour comprendre ce qu'il se passe avant de lui tomber dans les bras. Une scène qui a duré quelques minutes avant que des agents pénitentiaires ouvrent finalement le portail de la prison et laissent rentrer le détenu tout juste dans les temps.
L'avenir de Marseille sur la scène européenne se joue peut-être ce soir en Ligue des Champions face aux Anglais de Newcastle. Un OM à deux visages qui enchaîne les succès en Ligue 1 et les déconvenues en Europe. Il va falloir y remédier. Florent Germain.
Oui, victoire obligatoire pour l'OM contre Newcastle, même si certains supporters marseillais, comme Mehdi, n'y croient plus vraiment.
Pas trop, parce que Newcastle, ça reste quand même costaud. L'équipe panique en Ligue des Champions. Si on ne fait pas une victoire au Vélodrome contre Newcastle, de toute façon, voilà, Ligue des Champions, c'est fini. On ne va pas se concentrer sur le titre, hein. De toute façon, il ne nous restera que ça après à jouer, quoi.
Une seule victoire en 4 matchs de Ligue des Champions, mais l'entraîneur Roberto De Zerbi ne veut pas dramatiser.
Ce sera un match difficile, mais pas décisif. Parce que la Ligue des Champions de l'année dernière a démontré que jusqu'à la dernière journée, ce n'est pas fini. Mais c'est vrai que de prendre 3 points pour ce que nous avions fait sur le terrain, ce n'est pas suffisant. Nous en méritions plus. Newcastle est fort, mais nous aussi, et nous jouons à la maison.
Un Vélodrome plein et la sensation que tout est encore possible en Ligue des Champions, voilà qui doit transcender l'OM, selon le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.
Le plus important, c'est de prendre conscience que c'est une chance d'avoir son destin entre les mains. On a cette excitation-là, on a de l'enthousiasme à savoir de jouer ce genre de match-là.
3300 supporters anglais sont également attendus. Match à enjeu et sécurité renforcée dans Marseille et aux abords du Vélodrome.
OM, Newcastle, 5e journée de Ligue des Champions à vivre ce soir sur RMC à partir de 21h.
C'était le journal de Thibaut Texer.